Le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
C'est bien ça. Bonsoir, bonsoir à tous. À Notre-Dame-des-Landes, des zadistes peut-être en voie de régularisation. Une réunion a eu lieu cet après-midi à la préfecture de Loire-Atlantique où une quarantaine de projets nominatifs ont été présentés à l'État. Sans parler de sortie de crise, pour le moment, il y a manifestement détente. Analyse de Véronique Robérotte. Air France, une consultation des salariés avec un arrière-goût de référendum pour ou contre la direction. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le PDG Jean-Marc Janaillac. Il démissionnera si les salariés de la compagnie désapprouvent l'accord déjà rejeté par les syndicats. La page politique de ce journal avec les débats plus longs que prévus, plus laborieux que prévus sur le projet de loi Asile et Immigration à l'Assemblée nationale. On voit ça en compagnie de Stéphane Robert et puis les réflexions de Manuel Valls sur un éventuel retour au pays. Ludovic Piétenu nous en dira plus dans ce journal. Et puis l'enquête de cette édition sera signée Sylvain Tronchet avec la suite du projet Daphné, du nom de cette journaliste maltaise assassinée il y a 6 mois alors qu'elle enquêtait sur des faits de corruption et de blanchiment d'argent. Ces investigations sont reprises par un collectif de journalistes et elles avancent. On est certainement encore loin de la sortie de crise à Notre-Dame-des-Landes, mais le terme a été utilisé tout à l'heure par des représentants de la ZAD à leur arrivée à la préfecture de Loire-Atlantique. Une réunion à Nantes avec la préfète s'est tenue qui portait sur des projets agricoles et culturels concrets à 3 jours maintenant de la fin d'un ultimatum de l'État sur la régularisation des collectifs d'anciens opposants au projet d'aéroport. Bonsoir Véronique Robérotte.
Bonsoir.
Les choses avancent manifestement plutôt positivement.
Oui, car la délégation dite des zadistes n'est pas arrivée les mains vides cette fois-ci à la préfecture de Nantes, invitée à rencontrer à nouveau la préfète, après une rencontre déjà mercredi dernier en présence de Nicolas Hulot qui n'avait rien solutionné. La délégation est arrivée cet après-midi avec ce que souhaitait l'État, de première demande de régularisation individuelle, un des zadistes à la sortie de la réunion.
On a déposé une quarantaine de fiches, dont 25 fiches agricoles, avec des projets agricoles qui ont débuté depuis ces 10 dernières années. Et une dizaine de fiches para-agricoles, culturelles et artisanales. Donc on a présenté tout ça en démontrant que tout est lié en fait, parce que sur cette zone c'est une vraie gestion collective du territoire et des activités qui s'entremêlent. Donc enlever un élément de ce collectif, ça perturbe tout ce qui s'y passe. Donc on a présenté ça et du coup c'est un volet agricole qu'ils veulent, on leur a présenté un volet agricole, mais nous, c'est tout ce qui se passe aussi à côté qu'on va défendre ensemble. On a fait un pas en avant vers eux, donc maintenant à eux aussi de faire un pas en avant, c'est-à-dire en laissant cette zone apaisée et qu'on rentre dans un dialogue, comme l'a dit mon camarade, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment dialoguer sur le fond du projet et qu'on porte tous ensemble depuis des années.
Alors des zadistes qui motivent aussi leur geste dans un souci de faire cesser, je cite, l'escalade de la tension sur place. L'État qui menait depuis maintenant presque une semaine des missions d'expulsion puis de déblaiement sur la ZAD avec des affrontements quotidiens, plus calmes, il est vrai, ces derniers jours. L'État représenté donc par la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, est certainement soulagé cet après-midi avec ce début de dialogue. On l'écoute.
La zone sur laquelle on travaille, c'est 270 hectares. C'est pour remettre les choses en perspective, je crois que c'est très important. C'est pas tout l'espace, c'est une partie de l'espace. Donc ils ont fait ce travail, encore une fois, des projets nominatifs. On va regarder ces projets, on va refaire une réunion lundi après-midi. S'il faut, je reverrai la délégation, mais ils vont compléter eux-mêmes leur dossier pendant le week-end. C'est un signe de bonne volonté, bien sûr, puisqu'ils ont jusqu'à aujourd'hui refusé de donner des projets nominatifs. Ils ont donné des projets nominatifs qu'on va examiner de plus près. Il y en a 7 qui nous paraissent sans problème, 18 qui nous paraissent pas loin de l'aboutissement, quelques autres, donc vous faites la différence, qui nous paraissent poser problème. Donc on va les regarder, mais il y a des projets nominatifs agricoles.
L'ultimatum donc fixé au lundi 23 avril est repoussé, certainement les zadistes ayant accepté de répondre aux injonctions de l'État.
Merci Véronique Robérotte. Le quitte ou double du patron d'Air France. En début d'après-midi, Jean-Marc Janaillac a mis en jeu sa propre démission en lançant une consultation des salariés de l'entreprise. Dans les semaines qui viennent, ils devront se prononcer sur l'accord salarial que les syndicats ont définitivement rejeté aujourd'hui. Bonsoir Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir Benoît.
Vous avez assisté à la conférence de presse du patron d'Air France qui demande donc aux salariés de choisir entre les syndicats et le patron.
Oui, c'est l'idée. Et dès le début de la conférence de presse, Jean-Marc Janaillac est très alarmiste. Il parle d'autodestruction d'Air France. Arrive alors cet ultimatum.
Une consultation par vote électronique débutera le 26 avril et se terminera début mai. Je tirerai bien entendu toutes les conséquences du résultat de cette consultation.
À tirer les conséquences, autrement dit...
Si le résultat est négatif, je ne vois pas comment je pourrais rester à la tête de l'entreprise.
Mais le référendum électronique est déjà accusé par certains salariés d'être inégalitaire. Joël Lejanic est membre du bureau du syndicat sud-aérien.
Tout dépend comment est posée la question, puis tout le monde n'a pas accès à l'ordinateur. On sort d'une élection de conseil d'administration où on a eu des soucis à cause de ça. Moi, je travaille au bureau technique, oui, j'ai un ordinateur personnel, mais tout le monde n'a pas ça, quoi. La forme de consultation, je vous dis quelque part, nous, c'est les participations au mouvement de grève, c'est le fait que la moitié de la flotte est à chaque fois éclouée au sol, c'est l'efficacité de la grève. Voilà, nous, pour l'instant, c'est notre réponse.
Un autre syndicaliste qui ne souhaite pas être nommé se félicite, lui, du procédé qu'il qualifie de démocratique, mais il dit craindre une forte abstention. C'est pour cela que Ronald Noirot, le secrétaire général de la CFE-CGC Air France, exhorte à participer. Il est lui favorable à l'accord.
Il faut absolument que l'ensemble des salariés, tous les salariés, puissent se prononcer en dehors des syndicats et de toutes les pressions politiques qu'il peut y avoir actuellement. L'intersyndicale la refuse sans vouloir même l'analyser. Après des négociations qui ont été assez dantesques, on a déjà eu Alexandre de Jugnac qui a été forcé à la démission. Ça serait maintenant M. Janaillac qui, clairement, ça devient difficilement supportable.
Mais un autre salarié que j'ai joint le confie, il ne pleurerait pas avec ses collègues le départ de Jean-Marc Janaillac, qu'il voit comme un technocrate aisément remplaçable.
Merci Louis-Valentin Lopez. La voix du président de la République se fait entendre dans le conflit qui secoue les universités depuis quelques semaines. Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, ce matin a fait monter la pression en expliquant que le défi des prochains jours était la tenue des examens, une déclaration qui intervient comme pour tenter de mettre un point final au mouvement après la levée musclée cette nuit du blocus de Tolbiac par la police et la fin du blocus également aujourd'hui, mais spontané, à Sciences Po Paris. Bonsoir Mathilde Erard.
Bonsoir.
D'autres blocus continuent et dans ce combat des étudiants contre la loi Or, d'autres présidents se font entendre.
63 présidents d'université exactement ont signé une tribune parue notamment dans Le Monde aujourd'hui. Ces présidents approuvent cette loi orientation et réussite, mais ils demandent plus de moyens humains et financiers pour appliquer cette réforme. Rachid El Goujerma, le président de l'Université du Mans, fait partie des signataires.
Pour Le Mans Université, le ministère nous a demandé de combien de moyens nous devrions disposer pour mettre en place Parcoursup et la loi ORE. Nous avons estimé cela, déjà pour les filières sous tension que sont les STAPS, etc., et la mise en œuvre des parcours dont je viens de vous parler, à une quarantaine de postes. Je n'ai eu que 5 postes. Nous ne sommes pas contre Parcoursup, c'est la loi simplement pour la mettre en œuvre. Il faut des moyens. On ne peut pas continuer de façon indéfinie à nous demander de faire encore plus avec quasiment la même chose, voire moins. Ce n'est pas possible.
Les présidents d'université demandent aussi plus de moyens. Ils demandent aussi au gouvernement d'ouvrir rapidement le dialogue avec toutes les parties prenantes du conflit.
Voilà pour des négociations. Encore faut-il, Mathilde, merci, que ce soit matériellement possible. Écoutez ce qu'en dit le président de la conférence des présidents d'université, Gilles Roussel, interrogé par Louis-Valentin Lopez.
Aujourd'hui, la plupart des groupes qui sont constitués sont des groupes auto-constitués où il n'y a pas vraiment... les syndicats classiques ne sont pas vraiment présents. Et donc, des retours de certains présidents hier qui nous indiquaient que chaque fois qu'ils allaient discuter avec le collectif, c'était jamais la même personne qu'ils avaient en face. Avec souvent des positions qui divergeaient d'une intervention sur l'autre. La question aujourd'hui est de savoir quelle est la véritable attente d'un certain nombre d'étudiants bloqueurs ou autres. Est-ce que c'est vraiment autour de la loi et est-ce qu'il y a des alternatives proposées? Parce qu'aujourd'hui, c'est le retrait de la loi, mais retrait de la loi, ça veut dire retour au tirage au sort, toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il faut pour qu'il y ait un dialogue, c'est qu'il faut qu'il y ait des propositions de sortie alternatives qui ne peuvent pas être uniquement le retrait de la loi.
Un hommage officiel a été rendu tout à l'heure à Xavier Jugelet. Il y a tout juste un an aujourd'hui, le capitaine de police avait été tué sur les Champs-Élysées à Paris par un terroriste islamiste. Sur les lieux de l'attentat, une stèle a été dévoilée à la mémoire donc de Xavier Jugelet. À l'Assemblée nationale, la soirée et le week-end s'annoncent longs autour des 40 articles du projet de loi Asile et Immigration. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
Du service politique de France Culture. Vous suivez pour nous les débats. Cet après-midi, l'article sur le raccourcissement des délais d'appel pour les déboutés de la demande d'asile a été votée. Les choses avancent, mais visiblement pas aussi vite qu'espéré par le gouvernement.
Oui, les discussions traînent en longueur. Vous avez d'un côté la gauche et quelques élus de La République En Marche se revendiquant de cette sensibilité qui essaie de détricoter les dispositions les plus fermes et les plus sécuritaires. Et d'un autre côté, la droite qui tente, elle, de durcir ce projet de loi. Du coup, les débats s'éternisent. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'il y a de nombreuses digressions. On ne discute pas toujours des amendements qu'on est censé examiner. Comme en témoigne cet échange avec le député de l'Yonne, Guillaume Larrivé, la députée du Maine-et-Loire, Stella Dupont, et celui qui préside les débats depuis ce matin, Hugues Granson.
Le parti macroniste incarne les Lumières. Sous-entendu, nous, les Républicains, nous sommes le camp de l'obscurantisme, de la régression. C'est grosso modo ce que vous disiez.
Merci, monsieur Larrivé, pour cette intervention dont je crois avoir compris qu'elle n'était pas tout à fait en lien avec l'amendement de monsieur Zumkeller. Et donc, sur cet amendement de monsieur Zumkeller, y a-t-il d'autres demandes de parole? Madame Stella Dupont, vous souhaitez réagir à l'amendement numéro 29?
Deux secondes, monsieur le président.
Non,
merci
non, est-ce
beaucoup.
Est-ce que c'est sur l'amendement 29?
C'est à l'intervention
de monsieur.
Alors
non, pardon, mais il n'y a pas de dialogue sur un amendement qui a déjà été voté. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 29 de monsieur Zumkeller en rappelant l'avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour... qui est contre, il n'est pas adopté.
Voilà, au total, il y a plus de 1000 amendements à examiner pour un projet de loi qui contient 40 articles, vous le disiez. Or, on en est en ce moment même à l'examen de l'article 9. Vous voyez qu'on est encore loin du terme des discussions qui vont se poursuivre tard dans la nuit et vraisemblablement demain et peut-être très tard demain.
Merci Stéphane Robert. Et c'est en plein débat sur ce projet de loi asile et immigration qu'on apprend de manière plutôt surprenante, il faut bien le dire, que Manuel Valls pourrait continuer le cours de sa carrière politique dans les années qui viennent en Espagne. L'ancien Premier ministre et actuel député apparenté République en Marche n'a en tout cas pas exclu de répondre favorablement à la proposition du parti espagnol Ciudadanos qui lui aurait demandé... Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir.
De revenir au pays pour conduire la bataille des municipales à Barcelone.
Oui, l'ancien Premier ministre était ce matin l'invité de la télévision publique espagnole dans l'émission Les Petits Déjeuners, Los Desayunos. Écoutez cet extrait.
Je suis né à Barcelone et je suis un fils de catalan. Parce que si je veux donner à la Catalogne et à l'Espagne ce qu'elles m'ont apporté, ce sont mes origines. C'est aussi une forme de générosité, non ? Et je me mettrai dans ce débat comme un Européen, parce que les conséquences seront très importantes pour l'Europe. Mais continuer dans le débat sous une autre forme, là je vais répondre comme un homme politique, c'est aussi ça qui m'intéresserait. Oui, d'une autre façon, continuer ce débat politique, intellectuel. Est-ce que je peux aller plus loin ? Bon, je vais y réfléchir.
On avait vu Manuel Valls il y a un mois aux côtés de milliers de manifestants anti-indépendantistes pour défendre une Espagne unie. C'est ce dont a besoin l'Europe, disait-il déjà. Le voilà son credo. Mon parti est ouvert aux talents, a dit aussi aujourd'hui Albert Rivera, le chef de Ciudadanos, ce parti de centre-droit créé il y a une dizaine d'années en Catalogne, mais qui a émergé plus récemment, un peu de la même façon qu'En Marche en France, mais avec nettement moins de succès. À suivre donc ces municipales à Barcelone, c'est en mai 2019 et avant cela, il faudra que Manuel Valls en passe par le filtre des primaires. Et la dernière fois qu'il en est passé par là, c'était en janvier 2017 en France. Et vous connaissez tous le résultat. Rappel d'un score dont on se souvient ici un peu moins. Ciudadanos avait seulement totalisé 11% des voix lors des précédentes municipales dans la capitale catalane en 2015.
Merci Ludovic Piétenu. Et l'actualité à l'étranger nous fait rester en Espagne avec ces excuses surprenantes venues de l'organisation basque ETA, des excuses qui étaient destinées à préparer la future dissolution officielle du groupe, mais qui visiblement n'ont pas eu l'effet escompté au Pays Basque et en Espagne. Au contraire, elles créent ces excuses, cette demande de pardon, une vive polémique dans le pays, alimentée par les soupçons de calcul politique que pourraient faire les tenants d'ETA. À Madrid, Marie-Hélène Ballesteros.
Les réactions se succèdent en Espagne après la publication de ce communiqué historique. Certains, à l'image du secrétaire général du Parti socialiste espagnol, Pedro Sánchez, considèrent qu'il s'agit d'un grand pas vers la paix définitive après un long et dur chemin. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le communiqué a déclenché beaucoup de critiques en Espagne, et notamment du côté des associations de victimes du terrorisme. Elles considèrent que l'ETA maintient en fait sa stratégie de laver son image afin de justifier son activité terroriste. Elles doutent aussi de la sincérité de la bande, persuadée qu'elle cherche à obtenir des bénéfices, notamment dans le cadre du rapprochement des prisonniers basques. Enfin, les victimes du terrorisme rejettent presque toutes cette demande de pardon de l'ETA qui arrive trop tard, qui ne leur apporte rien et qui en plus est sélective. En effet, dans son communiqué, l'ETA demande pardon seulement aux victimes qui, selon les terroristes, n'étaient pas impliquées dans ce qu'elle qualifie de conflit. Quant aux autres, comme les gardes civils ou les policiers, l'organisation basque n'évoque n'évoque que des regrets. Une distinction qui a provoqué l'indignation des victimes du terrorisme en Espagne. María del Mar Blanco, élue du Parti Populaire, dont le frère Miguel Ángel Blanco fut tué en 1997, après un enlèvement suivi par toute l'Espagne, a manifesté sa colère. Elle trouve honteux et amoral que l'on fasse cette distinction entre ceux qui méritaient une balle dans la nuque, la bombe sous la voiture, et ceux qui ont été victimes par hasard.
Marie-Hélène Balestero. En Italie, l'hypothèse de la formation d'un gouvernement de coalition à droite semble s'éloigner, alors que cette hypothèse était une des plus travaillées ces derniers jours. Silvio Berlusconi a mis un terme aux discussions. Le mouvement 5 étoiles est un danger pour l'Italie, a déclaré tout à l'heure l'ancien président du Conseil. Sans l'aval de qui, la coalition droite-extrême droite ne pourra s'allier avec personne, pas même avec le parti arrivé en tête des dernières législatives. 18h15 sur France Culture, la suite du journal avec de nouveaux développements pour le projet Daphné, c'est l'enquête de cette édition. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Benoît.
Du service investigation de Radio France, vous faites partie de cette équipe de journalistes qui depuis des mois maintenant travaille sur ce projet au sein de l'organisation Forbidden Stories qui reprend et perpétue les travaux de journalistes assassinés. Daphné Caruana Galizia, enquêtée au moment de sa mort il y a 6 mois sur des faits de corruption et de blanchiment d'argent au plus haut niveau de l'État à Malte. Vous avez donc repris son enquête et à la lumière de ce que vous avez trouvé, on se demande comment les autorités européennes peuvent tolérer de tels soupçons au sein même de l'Union.
Oui, et cette question, on se l'est posée aussi hein, pendant que nous enquêtions. On a d'ailleurs, normalement, j'ai envie de dire, envoyé une demande d'interview à Frans Timmermans, c'est le commissaire européen chargé de l'état de droit. Il a refusé de nous répondre. Du coup, Jules Giraudat de France 2 s'est glissé dans une conférence de presse pour lui demander si la commission comptait prendre des sanctions contre Malte. Écoutez sa réponse un peu embarrassée.
La Commission suit de près la situation à Malte. Ça n'est certainement pas quelque chose que nous ignorons. Vous me demandez s'il va y avoir des sanctions, mais à ce stade, il n'y a pas d'éléments pour justifier des sanctions. Mais nous surveillons ce dossier et si nous considérons qu'il y a des éléments, alors nous n'hésiterons pas à proposer des sanctions.
Alors on entend, Sylvain, très clairement que le commissaire européen chargé de l'état de droit botte en touche. Est-ce qu'il y a quand même des pressions politiques sur le Premier ministre maltais ?
Pas beaucoup, il faut être honnête, et en tout cas il arrive à s'en affranchir très facilement. Par exemple, lorsque la commission d'enquête européenne sur les Panama Papers, alors que deux de ses ministres étaient cités nommément dans ces Panama Papers, lorsque la commission a voulu l'entendre, il n'est pas venu. Alors, en juin 2017, il a quand même été obligé de venir devant le Parlement européen parce que Malte présidait l'Union à ce moment-là. Et là, Werner Langen, le président allemand de la commission d'enquête, a eu l'occasion de lui dire ce qu'il pensait de son attitude. Ce n'est pas digne d'un ancien eurodéputé comme vous. Et en plus, vous présidez l'Union européenne cette année. Un tel mépris du Parlement européen, j'ai jamais vu ça. Vous devez faire le ménage dans votre propre pays. On ne va pas vous lâcher. Nous allons nous pencher sur votre propre cas et vous pouvez rire. On ne vous laissera pas vous en tirer comme ça.
C'est une scène assez incroyable qui s'est déroulée devant le Parlement européen. Et pendant tout ce temps-là, le Premier ministre maltais, lui, ricanait sur son siège.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est soutenu politiquement au sein de l'Union européenne, Sylvain ?
Ben oui, c'est l'analyse en tout cas de l'eurodéputé allemand Sven Giegold qui a participé à une commission d'enquête sur Malte.
Au Parlement, la majorité des social-démocrates et socialistes ont défendu le gouvernement maltais qui font encore partie de leur groupe politique. Mais il y a eu toujours une majorité de lutter pour plus de démocratie et l'état de droit à Malte. En même temps, la Commission européenne, malheureusement, a défendu le gouvernement de Muscat et ils ont déclaré qu'il n'y a pas vraiment de problème d'état de droit à Malte. Monsieur Juncker et aussi Timmermans sont des amis de Monsieur Muscat. Monsieur Muscat a aidé régulièrement la Commission européenne de trouver des majorités au Conseil. C'est utile d'avoir M. Muscat au sein des socialistes.
Voilà, et aujourd'hui, plusieurs députés demandent à la Commission européenne de réagir, d'autant plus que nos révélations ont montré que l'un des ministres maltais, mis en cause, avait menti devant une commission d'enquête du Parlement européen.
Merci Sylvain Tronchet. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Les records de chaleur sont une nouvelle fois tombés aujourd'hui, en particulier sur l'île de France. La situation va perdurer demain, encore une journée très ensoleillée, très chaude. Le temps sera plus perturbé sur le nord-ouest du pays. Vers le sud, les températures maximales pourront de nouveau atteindre la barre des 30 degrés.